Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Kieran Gessel, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Alexandre Derangue. À moins d'avoir un peu de stock à domicile, ce n'était pas le jour, ce mardi, pour attraper un rhume ou une rage de dents. Zéro paracétamol, zéro aspirine, zéro ibuprofène. Selon le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, près de 9 pharmacies sur 10 sont restées fermées aujourd'hui. Indice le plus visible du succès de la journée d'action lancée par l'Union nationale des professions libérales contre le projet gouvernemental de réforme des professions réglementées. Alors, à vrai dire, ce projet de loi n'existe pas encore. Il est en cours de construction du côté du ministère de l'Économie. L'objectif de Bercy, c'est de favoriser la croissance en levant un certain nombre de freins à l'activité. Les professions réglementées comme les pharmaciens, mais aussi les médecins, les avocats, les notaires ou encore les huissiers sont dans le collimateur parce qu'en situation de monopole, parce que pratiquant des tarifs parfois trop élevés. Lorsqu'il était encore au gouvernement, Arnaud Montebourg avait promis un grand chambardement susceptible, disait-il, de générer 6 milliards de pouvoir d'achat en faveur des consommateurs. Son successeur, Emmanuel Macron, est plus prudent. Il n'en dispose pas moins sur son bureau d'un rapport de l'Inspection générale des finances qui pourrait servir d'armature à la loi sur la croissance prévue pour 2015. Rapport détonnant puisqu'il propose par exemple d'ouvrir le capital des sociétés libérales à des non-professionnels. Mais c'est compté sans le pouvoir de résistance ou d'inertie, diront certains des manifestants de ce mardi. Alors les professions réglementées sont-elles vraiment libérales? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Philippe Gartner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Vous êtes par ailleurs vice-président santé de l'UNAPL. L'UNAPL, c'est donc l'Union nationale des professions libérales qui regroupe des professions de santé, des professions du droit et puis des professions des techniques, du chiffre et du cadre de vie. Je donne simplement quelques exemples, mais ça permet au moins d'avoir une idée un peu claire de ce que représente l'UNAPL. On y trouve les assureurs, les architectes ou encore des experts comptables. Je précise encore que toutes les professions libérales ne sont pas réglementées, Philippe Gartner, mais on va dire que ça représente le gros des troupes.
La plupart, effectivement, sont réglementées. Quand on parle de réglementation, souvent, c'est un cadre lié à des diplômes qui sont nécessaires pour exercer.
Voilà, c'était les petites précisions de début d'émission. Pour discuter avec vous ce soir, Gaspard Koenig, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président fondateur du think tank Génération Libre, qui est un think tank libéral. Vous êtes passé dans une vie antérieure, pas si lointaine, par le cabinet de Christine Lagarde lorsqu'elle était à Bercy. Vous avez publié, entre autres ouvrages, je citerai celui de 2013, chez Grasset, La nuit de la faillite. Et puis notre troisième invité, c'est Xavier Timbaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Je signale la publication annuelle de l'OFCE, publiée à la découverte, L'économie française 2015. Alors Philippe Gartner, c'est évidemment avec vous que j'ai envie de commencer cette émission, puisque vous êtes au cœur de l'actualité de ce mardi. Des grèves, certaines professions qui manifestent, pas tous. Bon, bref, en tout cas, les modalités d'action n'étaient pas les mêmes en fonction des organisations. Mais en tout cas, une journée d'action contre une réforme qui, alors pour l'instant, n'existe pas. En tout cas, on n'en trouve pas trace quand on la cherche. Est-ce que ça veut dire que l'organisation que vous représentez ce soir, l'UNAPL, est hostile par principe à toute réforme des professions réglementées? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette journée d'action?
Écoutez, pour moi, non. Je crois déjà corriger quelque chose. Vous avez dit qu'il était difficile de se soigner aujourd'hui. Je vous informe quand même que la permanence pharmaceutique a été assurée puisque les gardes ont été prises dans les officines qui ont permis de s'approvisionner.
Donc, il était ça représentait 10%, je crois, à peu près des officines.
5% des officines, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe un jour férié ou un dimanche.
Bon, j'ai pas eu de chance.
Voilà. Alors, la deuxième chose, effectivement, c'est est-ce que c'est une logique de résistance ou est-ce que c'est autre chose qui a pu amener à cette manifestation importante? Puisque de mémoire, et ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans la pharmacie d'officine, je n'ai jamais vu ça.
Alors, mais vous conviendrez que manifester ou en tout cas s'opposer à un projet de loi qui n'existe pas encore, ça donne l'impression que par nature et par principe, vous êtes hostile à toute réforme des professions libérales.
Je crois que ce n'est pas du tout ça qui a mobilisé les gens. Ce qui a mobilisé les gens, ça a été les paroles particulièrement fracassante du précédent ministre de l'économie.
Il n'est plus là.
Et, ah bah, écoutez, c'est quand même resté. Il y a à l'intérieur du rapport de l'inspection générale des finances une orientation qui manifestement est une orientation à charge. Quand on parle d'orientation à charge, c'est parce que dans ces professions, où je le rappelle, la réglementation n'a pas été faite pour protéger les professionnels. La réglementation telle qu'elle a été conçue dans toutes ces professions, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit les notaires, cette réglementation, elle a été construite au fur et à mesure du temps pour protéger les gens qui s'adressent à ces professions. Et quand on traite des gens de rentiers, quand on met sur la place publique des revenus sans expliquer à quoi ils correspondent, on se trouve dans une situation où les gens ont un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, c'est ça qui les a amenés aujourd'hui à se mobiliser de façon aussi massive.
Alors on va avoir l'occasion d'aller dans le détail de ce qui peut être reproché aux professions réglementées, ou en tout cas des pistes de réforme qui sont évoquées ici et là. On aura l'occasion d'évoquer ce rapport de l'inspection générale des finances commandé par, alors c'était encore le prédécesseur d'Arnaud Montebourg, puisque c'était Pierre Moscovici. Pendant un an, on l'a cherché, on ne le trouvait pas, et puis il a fini par être publié officiellement il y a quelques jours, même si ça avait fuité dans la presse dans le courant de l'été.
Xavier Timbaud, Gaspard Koenig. Ils n'ont pas osé le sortir pendant un an, et à chaque fois qu'on leur demandait le rapport il était sous-clé dans un coffre à Bercy sur une clé USB.
Bon, aujourd'hui, en tout cas, on peut le lire, on peut le trouver assez facilement. Xavier Timbaud, ce qu'on ne peut pas dénier aujourd'hui, c'est du succès de cette mobilisation des professions réglementées. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par la capacité de ces professions à mobiliser, ou bien c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est-à-dire à chaque fois peut-être qu'on essaie de toucher à ces professions-là, on a en retour une forte opposition?
Ah non, je pense que la mobilisation qu'on observe aujourd'hui, elle est assez exceptionnelle, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les pharmaciens dans la rue. On a l'habitude de voir les chauffeurs de taxi, on a l'habitude de voir... principalement d'ailleurs les chauffeurs de taxi dans la rue, mais il faut dire qu'ils y sont aussi...
Mais ils y sont déjà dans la rue en même temps.
Donc il y a un caractère un peu exceptionnel. Après, le débat sur la réglementation des professions réglementées, sur les évolutions, sur est-ce que c'est une rente ou est-ce que ça n'en est pas une, ça c'est un vieux débat. Et il y a, disons, des lobbies de tous les côtés, en particulier du côté des professions réglementées, pour faire valoir... leur position, leur justification, voire leurs intérêts. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas non plus totalement en train d'assister à la création d'un nouveau corps social aujourd'hui sous nos yeux. C'est un corps social ancien qui est déjà fédéré, organisé, et qui, au fond, a déjà aussi une analyse assez propre sur sa situation, sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, et sur les raisons pour lesquelles il est là et dans les conditions où il est.
C'est un vieux débat, dites-vous, Xavier Timbaud, la preuve.
Ce matin, M. Rueff a présenté à la presse le rapport qu'il a remis il y a quelques jours avec M. Armand au Premier ministre. On sait, depuis quelques instants et d'une façon officielle, ce que contient ce rapport.
Ces recommandations, qui résultent d'un examen détaillé des différents secteurs de l'économie française, ont été inspirées par un certain nombre de principes que l'on peut énumérer ainsi. Réduire les rigidités de l'économie, éliminer les atteintes à la véracité des coûts et des prix, écarter les obstacles à une croissance harmonieuse de l'économie, réformer l'administration, remédier aux insuffisances de l'information et de l'instruction.
Voilà, alors dans le grand cimetière des rapports commandés par les autorités, il y a notamment le rapport UF Armand, ça c'était en 1960, à la demande du général de Gaulle. Il s'agissait déjà d'essayer, notamment, hein, c'était pas uniquement le sujet, mais de déréglementer, en tout cas de modifier les professions réglementées. Il y a eu la même chose en 2007 avec la commission Attali. Gaspard Koenig, si ces projets de réforme n'ont pas été plus loin, est-ce que c'est parce que finalement c'était des mauvais projets, ou bien c'est parce que les professions libérales sont peut-être plus conservatrices qu'elles n'en ont l'air?
Ça, on l'avait vu en effet sous Sarkozy, et j'avais eu la chance de le voir, si je puis dire, de manière un peu privilégiée chez Christine Lagarde. Dès que le rapport Attali était sorti, il y a eu des levées de boucliers très importantes, notamment à l'époque chez les chauffeurs de taxi, et très rapidement, le rapport avait été mis sur les étagères, et donc tous les 10-20 ans, ou là, tous les 3-4 ans en l'occurrence, les gouvernements ressortent ces projets de rapport. Mais en l'occurrence, c'est un débat qui est encore beaucoup plus vieux que le rapport Rueff Armand, puisqu'on avait le même débat en France en 1750-1760. Je rappelle que ce qui agaçait beaucoup la société française à l'époque, c'était non non seulement les privilèges de l'aristocratie, mais aussi beaucoup les privilèges des corporations. À tel point que Turgot avait fait le premier rapport EF Armand / Attali / bien d'autres, qui demandait la déréglementation des jurandes, des guildes, des corporations, etc., que Louis XVI avait repris à son compte, levé de bouclier notamment par le Parlement de Paris, et je suis sûr qu'on verra la même levée de bouclier au Parlement, parce que les parlementaires sont très influençables par les lobbies. Donc Louis XVI avait finalement renoncé au projet de réforme, renvoyé Turgot, et qui avait mené à bien de manière très très radicale, en fait, le premier projet de déréglementation des corps professionnels.
Les révolutionnaires.
C'est la Révolution française, parce qu'il faut quand même rappeler que la Révolution française est une révolution ultra-libérale sur le plan à la fois politique et économique. Donc il y a eu, bon, on connaît l'histoire, en 1791, les lois Le Chapelier et les décrets d'Allard, qui allèrent très très loin, puisque le décret d'Allard disait « il sera libre à toute personne » de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bon. Ça veut dire qu'il n'y avait plus aucune barrière à l'entrée, à tel point qu'on ne demandait même plus aux médecins d'avoir un diplôme. Alors, sans doute, ça allait trop loin, mais petit à petit, ces professions se sont reconstituées, beaucoup d'ailleurs sous Vichy, puisque c'est là que les ordres professionnels sont réapparus, les ordres des pharmaciens, les ordres des experts comptables, les ordres des notaires, je crois aussi, datent de la période vichiste.
Donc, et pour vous, qu'est-ce que nouveau, ça veut dire que ces professions réglementées ce seraient assimilables à des contre-révolutionnaires?
Bah, c'est des kystes, si vous voulez, dans la société. Alors, est-ce que toute réglementation n'est sans doute pas absurde? Mais de ce point de vue-là, je trouve que le rapport de l'inspection générale des finances est au contraire extrêmement prudent, voire timide. C'est-à-dire, il les lisse, il dit qu'il faudrait un peu plus loin dans tel sens, mais enfin, il n'est pas là et ce n'est pas du tout un projet révolutionnaire de déréglementation du secteur. Et j'ajoute que de toute manière, la grande différence avec les époques précédentes, c'est que ça va se passer parce que la rupture technologique va vous forcer à ouvrir ces professions. Et que vous n'aurez plus le choix et que donc il faut très vite vous adapter et accepter ces propositions parce que sinon vous allez trouver tous vos médicaments en ligne via des sites étrangers et vous n'aurez même plus de mots à dire.
Bon, Philippe Gartner, vous êtes des indécrottables conservateurs du côté des professions réglementées.
En tous les cas, c'est absolument pas la manière dont on conçoit nos professions. Je pense que on a des professions qui.
C'est vrai que vous n'êtes pas facile. C'est pas facile de les faire bouger, apparemment.
Ah, écoutez, moi, je partage pas. Enfin, je vais prendre un exemple qui est dans un domaine que je connais bien, qui est celui de la pharmacie où j'exerce. Je pense que l'accord qui a été trouvé en mai sur l'évolution du mode de rémunération des pharmaciens est exactement dans le sens de ce que propose l'IGF, puisque on a modifié le mode de rémunération qui était entièrement lié au prix des boîtes et au volume pour à hauteur de 50%, parce que c'est une première étape, le mettre sous forme d'honoraires et de réduire le rapport au prix de la boîte est pas encore suffisamment au volume de notre point de vue, mais bon, il y a des étapes nécessaires. Donc on voit bien que ce qui a pu être reproché dans le rapport IGF, et ça, ça a été un élément quand même que plusieurs professions ont souligné, c'est que ce rapport, il a été fait en 2012 sur des chiffres 2011, et les chiffres 2011, c'est l'activité 2010. Et que dans un certain nombre de cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors peut-être pas assez.
Peut-être que ça va encore mieux que ne le dit l'IGF.
Alors vous êtes d'accord avec l'IGF.
Mais il y a des éléments avec lesquels je suis d'accord. Et il y a des choses qui bougent. Et
bon, en tout cas, sur la critique qui serait celle d'un conservatisme et d'une forte inertie, ça, vous n'êtes pas d'accord. Xavier Tinbeau, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que, enfin, j'entends bien le discours que tient M. Koenig sur une espèce de marche progrès libéral qui se heurte de temps en temps à des contre-révolutions. Mais je pense que ça serait vraiment une erreur d'analyser l'histoire comme ça. Si vous voulez, il y a même une chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'on retrouve, à propos des professions réglementées, un certain nombre de réflexions qu'on peut avoir sur la question de la dépense publique, du statut des fonctionnaires et des services de mission publique. Parce que justement, il est question de cela. On est dans des cas où l'on sait que, en fait, le marché, lorsqu'il est laissé libre, conduit à un échec. Pourquoi les médecins sont-ils contrôlés par un ordre? Ont-ils des tarifs réglementés? Et pourquoi, finalement, dans tous les pays du monde, on a des réglementations sur la pratique médicale? Parce qu'en fait, quand vous êtes malade, vous n'avez pas la possibilité, l'expertise, de juger votre maladie, et vous êtes en situation de naïveté très grande face à la personne qui est en face de vous. Si cette personne veut vous extorquer, vous voler, vous infliger des traitements qui ne seront pas adaptés et vous faire croire qu'en plus elle vous soigne de cette façon-là, elle en a la possibilité. Et si on laisse faire le marché, ben, on va laisser faire les bonimenteurs et ce qui va surnager, émerger, ce sera une médecine conduite par des escrocs.
Alors, laisser, faire les laisser faire le marché, ça fait partie des préconisations des autorités européennes de la concurrence. La Commission européenne, par exemple, a fait des recommandations pour la France pour 2014 en disant voilà, il faudrait notamment supprimer les restrictions justifiées à l'accès aux professions réglementées et à l'exercice de ces professions. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre?
Alors, non, parce qu'il faut le comprendre dans une dimension d'économie politique. La Commission européenne admet qu'un certain nombre de choses doivent être réglementées. D'ailleurs, il se trouve que la Commission européenne est un des premiers producteurs de réglementations au monde et que dans notre pays, les réglementations qu'on applique proviennent précisément de la Commission européenne. Alors ensuite, la question, c'est de savoir comment organiser la concurrence et la réglementation. Comment organiser cette délégation de services publics tout en garantissant aux consommateurs le meilleur prix, en évitant que des marges indues ou des rémunérations indues se forment. Voilà, ça c'est une question importante. C'est que là, dans ce sens-là, le travail de l'IGF est un travail important. Regardez quelles sont les rémunérations, essayez de comprendre pourquoi, est-ce que c'est justifié ou pas. Voilà, ça c'est des choses importantes. Mais le principe de la réglementation ne doit absolument pas être jeté avec l'eau du bain, en quelque sorte.
Si j'ai bien compris à ce que vous dites, Gaspard Koenig, d'ailleurs, vous ne dites pas qu'il ne faut pas de profession réglementée. Est-ce qu'en tout cas, vous considérez que ce sont des professions qui n'accueillent pas suffisamment la concurrence?
Non, mais d'abord, on dit toujours le marché pour effrayer les gens, parce que c'est un mot qui passe mal en France. Mais quand on dit le marché, en fait, il faut dire simplement les gens qui créent, les gens qui ont envie d'acheter, les consommateurs. C'est ça le marché, ça n'existe pas en soi. Si les gens ont envie d'aller dans des écoles moins chères, de pouvoir acheter des médicaments au supermarché, 24 heures sur 24, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait s'y opposer. Alors c'est sûr qu'il y a des... Vous prenez l'exemple des médecins, c'est l'exemple le plus compliqué, l'exemple des médecins, parce que effectivement...
On s'y oppose en matière de vente de drogue, par exemple.
Voilà, bon, alors effectivement, pour les médecins, pour la vente de drogue, il y a des impératifs sanitaires très importants à faire respecter, qui sont du domaine de l'intérêt général. Mais si vous voulez, sur les professions réglementées, quand vous prenez tout le... Donc les médecins sont un cas quand même relativement à part. Mais quand vous prenez tout le reste...
D'ailleurs, dans le rapport, pardonnez-moi, je vous coupe juste deux secondes, mais dans le rapport de l'Inspection Générale des Finances, les médecins sont reconnus comme étant une activité où il y a une réelle intensité concurrentielle, puisqu'on dit finalement il y a suffisamment de médecins, ils sont plutôt bien installés et il y a une liberté des tarifs, enfin, qui fait que c'est pas dans ce domaine-là, semble-t-il, pour l'IGF en tout cas, que les problèmes de concurrence sont les plus importants.
Il garde le numéro
c'est un parti pris de l'IGF qui écarte et sans apporter véritablement d'argument tout de suite ces professions-là en disant là l'intensité concurrentielle est bonne. Bon, je pense que c'est surtout parce que c'est dans le champ d'autres administrations.
Gaspard Koenig.
Oui, ben on en revient à cette histoire de médecins. Mais effectivement, l'IGF a l'intention de, enfin, explique qu'il faut préserver le numerus clausus pour les médecins. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Vous savez que maintenant, les médecins français vont se former en Roumanie parce qu'ils n'arrivent pas à passer le numerus clausus français. Et puis, ils reviennent ensuite avec un diplôme européen. Donc, encore une fois, il y a des effets, tellement d'effets périphériques qui vont forcer le système à se réformer que je ne sais même pas si le numerus clausus va être tenable très longtemps. Mais encore une fois, les médecins, c'est minuscule, c'est très marginal dans l'ensemble des professions réglementées. Et ce qui est important, c'est de regarder. Enfin, bon, il y a des exemples que chacun a ses exemples de prédilection. Enfin, je ne vais même pas parler des taxis parce que c'est trop caricatural, mais vous pouvez prendre les auto-écoles, vous pouvez prendre les notaires qui ont des frais proportionnels au montant de la transaction alors que ça leur demande le même travail. Toutes ces professions-là, si elles étaient ouvertes, verraient arriver d'abord des nouveaux systèmes, des nouvelles manières de faire. Reparlons des médecins, par exemple. Il y avait un site en ligne qui était apparu. Son nom m'échappe pour justement pouvoir comparer les différents médecins avec les consommateurs qui donnaient leur avis, qui mettaient des étoiles, etc. Parce que c'est ça le monde moderne. Et ce site a été interdit par l'ordre des médecins. Il y a plein d'affaires comme ça. Il y a aussi eu un site pour les pharmacies. C'était 1001 pharmacies pour pouvoir justement acheter plus facilement ces médicaments pour les gens qui ne peuvent pas. Oui, mais enfin, ça a provoqué des réactions très virulentes de l'ordre des pharmaciens. Ça a été jusqu'au tribunal, ça a finalement été autorisé. On voit bien qu'à chaque fois, il y a des forces qui poussent, que ces forces, évidemment, vont dans le vent de la dans le sens de la technologie et de l'histoire, et qu'il faudra, au contraire, plutôt que de les rejeter, vous en emparer, vous adapter et vous ouvrir.
Alors, laissons répondre Philippe Gartner, qui ce soir ne représente pas seulement les pharmaciens, mais l'ensemble des professions libérales. Vous êtes hostile à l'arrivée de toute concurrence sur toutes les professions réglementées, ou bien dans certains cas, vous considérez peut-être qu'il y a des monopoles qui ne sont peut-être plus, enfin qui sont peut-être un peu obsolètes.
Écoutez, moi je pense que réellement la réglementation, elle s'est construite au fur et à mesure du temps. Cette réglementation, elle peut tourner autour de l'implantation. Hein, bon, on la connaît chez nous pour les pharmacies et chez les médecins.
Il n'y a plus de médecins en province.
Non, mais ça montre bien l'intérêt de tenir compte de la démographie du terrain Et je pense que là encore, il faut regarder la réalité des différents pays. La France est un monde de ruralité. On a un quart de la population française qui vit dans une commune de moins de 2500 habitants. Ça veut donc dire que si on laisse demain, imaginons les gens s'installer où ils veulent, ben on voit qu'il y a aujourd'hui des zones de sous-densité médicale et on réfléchit à la problématique de comment pouvoir résoudre ces éléments-là.
Bon, mais ça, c'est le cas des médecins. Un autre exemple. Oui, mais est-ce qu'il y a des exemples contraires où vous dites aujourd'hui à l'UNAPL, oui, effectivement, le monopole de cette profession-là n'est plus justifié et on pourrait modifier des choses?
Écoutez, je pense que l'approche qu'a eu l'IGF est une approche purement économique. Et quand on regarde les différentes professions, que ce soit celle du droit, que ce soit celle de la santé, il faut avoir une approche sous les deux angles de vision. L'économie aujourd'hui est au cœur de notre quotidien, avec une crise que personne n'est là pour contester. C'est un vrai problème et il faut donc avancer dans ce domaine-là. Mais néanmoins, on ne peut pas aborder un sujet sans regarder le côté santé publique, le côté de ce que ça apporte du point de vue du droit. Et si on regarde un domaine qui a été relativement déréglementé dans les années 80, c'est la banque. Et on a vu ce qui s'est passé, on a re-réglementé derrière. Parce qu'à un moment, la déréglementation va amener le citoyen lui-même à redemander de la réglementation. Alors, il faut s'interroger à tout moment sur la validité du niveau de réglementation.
Une réaction de Xavier Timbaud sur la dimension finalement politique de cette demande de déréglementation.
En fait, moi je pousserais même le bouchon un cran plus loin. Je crois fondamentalement à cette nécessité d'une régulation et je pense que dans les nombreux cas dont il est question, il y a vraiment une délégation de services publics qui est faite à des professions. Et en fait, je pense, au-delà de la question de la concurrence, de la question des monopoles ou des numerus clausus, qu'en fait, il y a une vraie question de est-ce que la délégation de services publics est bien remplie et est-ce qu'on utilise au mieux les technologies modernes, les différents outils, ou est-ce qu'on s'est adapté aux demandes des consommateurs au mieux pour effectivement remplir ces régulations? Est-ce que la pharmacie est aujourd'hui le bon instrument pour assurer le conseil médical sur les prescriptions médicales ou sur l'automédication? C'est une question qui se pose. Est-ce que c'est dans les territoires qu'on veut demain? Est-ce que ce sont des pharmacies ou est-ce que ce sont, par exemple, des officines qui regrouperaient une capacité d'avoir un petit peu de médecine générale, un petit peu de prescription, un petit peu d'optique, un petit peu de conseil sur un certain nombre de questions? En reconnaissant que c'est un aménagement du territoire et en reconnaissant que pour que ces services-là soient rentables, pour que les gens qui travaillent dedans en vivent décemment, il faut effectivement encadrer un certain nombre d'implantations, de tarifs. C'est aussi vers ce genre de choses qu'il faut être prêt à aller. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ce produit de l'histoire, il nous fige un peu. Et que c'est pas forcément vers plus de concurrence, moins de réglementation qu'il faut aller, mais vers des réglementations plus adaptés aux besoins des citoyens aujourd'hui sur les territoires et qui sont nombreux. On le voit particulièrement, par exemple, dans le cas de la médecine, qui repose aujourd'hui des problèmes de réglementation territoriale.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Les professions réglementées sont-elles vraiment libérales? C'est la question que nous posons ce soir à Philippe Gertner, Xavier Timbaud et Gaspard Koenig. Alors, on est allé sur des questions assez vite, qui sont des questions de réflexion politique et assez globales, mais je voudrais peut-être qu'on revienne sur des choses, non pas plus concrètes, mais en tout cas qui vont peut-être davantage parler aux gens qui nous écoutent, puisque un des arguments présentés pour la réforme des professions réglementées, réforme qui, je le rappelle, n'existe toujours pas en tant que projet de loi, c'est pour l'année prochaine normalement. Un des arguments qui est présenté, c'est à la fois rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs en permettant une baisse des prix, et puis l'autre, c'est de dire ça va permettre de créer des emplois. L'IGF, puisque c'est le seul document qu'on a vraiment sous la main, dit ça pourrait créer en 5 ans environ 120 000 emplois. Est-ce que ça, pour vous, sont des arguments imparables, Gaspard Koenig ?
Finalement, je ne pense pas que ce soit le cœur de l'argumentation, parce que ça va créer des emplois, ça va en détruire d'autres. C'est des logiques de destruction créatrice, hein, comme disait Schumpeter, qu'on connaît bien. Donc, je pense qu'il y a un point de principe qui est que ça va permettre, de toute façon, l'innovation et l'évolution de la société vers des réponses à des besoins nouveaux. C'est pour ça que quand on parle de délégation de services publics, je suis toujours un peu sceptique, parce qu'en un sens, ce service public, il est assuré aussi de manière très privée par des gens qui vont avoir des initiatives, qui vont être incités à avoir des initiatives qu'ils n'auraient pas avant, parce que la régulation les aurait exclus d'un certain champ. De toute manière, l'idée même, si vous voulez, de métier, à part dans des cas très spécifiques, très techniques, aujourd'hui évolue. Les gens n'ont plus un métier, n'appartiennent plus à une profession, mais font des choses très diverses, arrivent à combiner diverses choses. Donc voilà, et donc si ça, c'est l'IGF en effet table sur 120 000 emplois, 6 milliards d'euros de gagnés en pouvoir d'achat, comment bouder ça aujourd'hui? Et j'ajouterais, vous parlez d'innovation, de votre studio on voit la tour Eiffel, figurez-vous que si l'ordre des architectes avait existé à l'époque de Gustave Eiffel, il n'aurait jamais pu construire la tour Eiffel, parce que Gustave Eiffel était ingénieur, il n'était pas architecte, et c'est justement quand l'ordre des architectes a été créé qu'ils ont dit on veut plus ces ingénieurs, et ils les ont dénigrés en disant ce sont des entrepreneurs. Mais oui, mais voilà, les entrepreneurs, c'est eux qui font bouger le monde, et c'est eux qui arrivent, et qui arrivent au grand galop, et c'est bien pour ça que les professions réglementées vont devoir s'adapter.
Philippe Gartner, dans certaines professions caractérisées par des tarifs réglementés, une baisse de 20% des tarifs laisserait encore une marge nette raisonnable. C'est encore un extrait du rapport de l'inspection générale des finances. Le partage peut-être en termes de pouvoir d'achat, c'est quelque chose à quoi les professions réglementées sont opposées. Ce que dit quand même beaucoup le rapport, c'est que, en gros, les profits récupérés par les professionnels libéraux ne sont en rien parallèles avec l'évolution de l'activité économique, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus importants.
Écoutez, je crois que là encore une fois, il y a différentes professions. Ensuite, entre les moyennes et les extrêmes, il y a encore des points à regarder. Mais si on regarde, en fait, quand on a des tarifs qui sont réglementés, les tarifs qui sont réglementés, le plus souvent, sont protecteurs pour le consommateur. Et d'ailleurs, on voit bien que...
C'est-à-dire que ça augmenterait si c'était déréglementé ?
Je pense que ça augmenterait dans un certain nombre de cas. Ça pourrait diminuer dans d'autres, mais c'est certainement les tarifs les plus bas qui augmenteraient, les tarifs les plus élevés qui baisseraient. Et comme en général, le consommateur qui n'a pas beaucoup de moyens, le tarif est plutôt celui qui est bas, je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens dans cette action-là.
Non, vous verrez le low cost comme pour les opticiens d'ailleurs, qui ont eux aussi eu beaucoup de mal
je pense que le low cost,
accepter leur innovation.
Le low cost, alors il faut bien regarder.
Les lunettes pour 20 euros, je ne sais plus.
Oui, peut-être. Et bon, on voit bien que les choses bougent. C'est pour ça que je vous disais que nous n'avons pas l'impression d'être des professions immobiles. La technologie prend une place.
Vous envoyez un très mauvais message en faisant grève alors qu'il n'y a même pas de réforme sur la table. Vous ne donnez pas l'impression que vous voulez évoluer. Et du coup, vous risquez, en vous braquant, de faire exactement comme les taxis qui n'ont pas voulu évoluer pendant 20 ans et qui maintenant se retrouvent avec Uber et qui vont être tués par Uber. Et c'est bien fait pour eux.
Vous voulez préserver votre rente, Philippe Gartner ?
Écoutez, je crois que franchement...
J'utilise deux mots à dessein, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous énerve.
Il n'y a aucun professionnel libéral qui a la notion de rente. Je vous rappelle que la rente, c'est vivre de quelque chose qui n'est pas son travail. Et je pense qu'au moins, il y a une chose qu'on peut reconnaître, en tous les cas pour les gens qui sont au contact des professionnels libéraux, c'est leur capacité de travail, leur capacité de présence au service des gens qui viennent les voir. Et qu'effectivement, peut-être certains trouvent que les revenus des uns sont élevés. Néanmoins, mettons aussi en parallèle deux autres choses. C'est qu'on est dans une logique d'entreprise. Hein, c'est quand même 2 millions de personnes qui travaillent. On est dans une logique de proximité. Et que si vous libéralisez tout, vous allez désertifié, je pense que c'est une vraie réalité, et on est sur des emplois de proximité. Je ne suis pas sûr que la création d'emplois, et là je partage ce que vous dites, pourrait peut-être être à certains endroits, mais au détriment d'autres, où peut-être l'emploi est déjà aujourd'hui très difficile à trouver.
C'est avant tout une question de principe.
Xavier Timbaud, est-ce qu'on peut aller chercher des exemples ailleurs de déréglementation qui nous permettraient de trancher dans ce débat sur déréglementation créatrice d'emplois et qui permettrait de rendre du pouvoir d'achat, pour reprendre un peu les termes d'Arnaud Montebourg.
Pour revenir sur les estimations qui ont été faites, c'est le processus est assez clair, hein, c'est-à-dire On détruit des emplois dans les professions réglementées, mais ces destructions d'emplois correspondent en fait à un pouvoir d'achat à restituer aux consommateurs qui le dépensent, et c'est là que se font les créations d'emplois. Alors donc c'est un formidable mouvement dans l'économie, où effectivement...
Mais c'est de l'ordre du pari pour l'instant, uniquement du pari ?
C'est l'ordre du pari. C'est le vrai pari, il est sur le lien entre la qualité de service et le prix qu'on paye. C'est, en fait, c'est ça toute la question. Aujourd'hui, quand vous allez chez un notaire, et c'est là où c'est compliqué, vous payez cher. Vous payez plus cher qu'il y a 10 ans. Donc, c'est vrai que ça jette un doute sur est-ce que vous payez le bon prix.
Si on veut relancer l'immobilier, c'est sûr.
Non, mais c'est un vrai... Notaires, oui. Ça, c'est un élément qui est assez difficilement contestable. Vous payez plus cher, et les revenus des notaires ont augmenté par rapport à il y a 10 ans, plus que la moyenne des revenus. Donc, il y a quelque chose de suspect, disons, dans cette dimension-là. Mais la question, c'est si on libéralise complètement le travail des notaires, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez d'avoir des gens qui vont dire « Bon, moi, j'ai trouvé un notaire low cost qui me fait ça sur Internet, mais qui, en fait, ne fait pas le travail. »
Ça, c'est vous qui le dites. Parce que le notaire sur Internet qui ne fait pas le travail, il aura très vite des commentaires d'internautes qui disent « Ce mec est nul » et il disparaîtra.
Et non, justement, dans le cas du notaire, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le notaire, ce n'est pas comme quand vous achetez des bonbons ou un steak. Vous ne le mangez pas tout de suite et vous savez que c'est bon, ce n'est pas bon. Le notaire, vous vous rendez compte qu'il n'a pas fait son travail le jour où il y a un problème, 5 ans, 10 ans après.
Mais c'est la même chose aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils sont bien payés qu'ils font mieux leur travail.
Non. Parce qu'il y a une garantie qui est apportée, qui est la contrepartie du monopole. Alors, là, on peut réfléchir à comment on peut faire, un, pour modifier les tarifs des notaires sans la perte de qualité.
C'est ce que j'allais vous demander, Xavier Thimbault. Pourquoi est-ce que, je sais pas, par exemple, l'autorité de la concurrence ne décrète pas, on va baisser les tarifs des notaires.
Et à mon sens, c'est là que se situe aujourd'hui véritablement l'immobilisme, voire la défense de rente d'un certain nombre de ces professions. C'est-à-dire, il faut accepter ce dialogue en disant, nous avons un certain nombre, dans ces professions, il y a un certain nombre de privilèges ou de spécificités de fonctionnement de marché qui sont accordées. En contrepartie, ça veut dire qu'il faut avoir un regard très serré sur comment ça se passe. Reparlons des médecins qui ne sont pas dans le rapport de l'IGF. Mais c'est un cas intéressant, le cas des médecins. La médecine qui s'appelle libérale est dans un système de prix réglementé, avec des surveillances extrêmement fortes. Mais aujourd'hui, parce que la pression sur le contrôle des dépenses de santé a été beaucoup plus forte que sur d'autres types de dépenses, mais aujourd'hui, l'activité d'un médecin est surveillée en détail. Son revenu, médecin par médecin, est observé par son autorité de tutelle. Quand un médecin a des revenus qui dépassent la norme, il est soumis à un contrôle. Peut-être qu'il travaille plus que les autres, peut-être qu'il travaille mieux que les autres. Si c'est le cas, il conserve ses revenus. Sinon, et si jamais il a triché, si jamais il a abusé, il sera redressé. Donc ce contrôle-là peut être une chose à imposer pour arriver à libérer du pouvoir d'achat, à faire cette création destructrice, tout en conservant la qualité de service.
Gaspard Koenig.
Je vais prendre un exemple très simple que je connais bien, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'argument qui dirait que la qualité du service est liée au monopole. Je pense au contraire, le monopole installe dans un certain confort, qui fait qu'au contraire, on traite moins bien son client, et d'ailleurs, on ne le traite plus comme un client, mais comme une sorte de conscrit dont la présence est de toute manière obligatoire. C'est exactement le cas dans un domaine donc plus anecdotique, mais quand même important pour plein de gens, que sont les auto-écoles. Les auto-écoles, c'est un monopole au sens où c'est la préfecture qui donne un agrément à chaque auto-école. Donc c'est exactement le cas d'une profession réglementée avec un certain nombre de normes qui sont d'ailleurs complètement débiles, puisque par exemple la préfecture demande aux auto-écoles d'avoir un lecteur DVD et une salle pour passer le code, alors que ça fait 10 ans que les gens font ça sur Internet. Et donc, du coup, vous avez des tarifs élevés parce qu'il faut payer le local, parce qu'il faut payer le patron. Du coup, les gens qui bénéficient entre guillemets de la rente sont pas contents. Et c'est faux de dire que les rentiers sont des privilégiés. Les pauvres instructeurs d'auto-école qui font ça en étant les salariés du patron d'auto-école qui jouit de son monopole sont mal payés, les clients sont maltraités. Il y a des pays que j'ai expérimenté où le système est libéralisé, c'est-à-dire que vous allez sur le mono que vous prenez le mono que vous voulez, il vous donne des cours de conduite, vous le payez, il a sa petite entreprise et il vous présente à l'examen. Évidemment, les tarifs sont moins chers puisque les types se livrent à la concurrente. Évidemment, il vous traite mieux puisque vous êtes son client. Et évidemment, vous êtes davantage content du service rendu et vous ne payez pas le prix de la rente. Donc, au contraire, la libéralisation, souvent, rend les gens heureux, si vous voulez, et plus détendus. Et je pense que beaucoup de gens qui, aujourd'hui, protestent par réflexe, par peur, en fait, se retrouveraient gagnants dans le système s'il était ouvert.
Bon, Philippe Gartner, j'ai une proposition à vous faire. On conserve l'ensemble des professions réglementées, mais on les surveille davantage et le cas échéant, on impose à certaines de baisser leurs tarifs. Est-ce que ça... ça vous convient si c'est ce qu'on trouve dans le futur projet de loi?
Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, y compris la réglementation telle qu'elle existe, doit évoluer et en fonction de ce que l'on vit au quotidien et de l'évolution de la société.
Donc ça veut dire que vous répondez oui à ma question?
La première partie de la question, déjà je réponds oui. Sur la deuxième partie qui relève des tarifs. Là encore une fois, il faut regarder quelles sont les incidences, y compris sur les entreprises, parce qu'on imagine toujours le notaire. Mais derrière le notaire, il y a toute une équipe. Et que bien entendu, si on réduit les tarifs, je ne suis pas là pour dire qu'il faut les réduire ou pas les réduire, mais si on les réduit, la capacité et d'investissement et la capacité d'emploi va être réduite. Ça se ressentira forcément. L'exemple qui a été pris sur les auto-écoles. Enfin, il me semble que quand on se promène dans Paris, mais dans toute ville de province aussi, il y a suffisamment d'auto-écoles pour que si vous n'êtes pas content de votre auto-école, vous en changiez.
Ouais, et en tous les cas... Ça, je vais vous raconter des vertes les pas mieux là-dessus.
Prenons encore le cas de la plupart des professions libérales. Vous avez le libre choix. Et effectivement, derrière ce libre choix, il y a des contrôles liés à la déontologie, au diplôme, au maintien des compétences, à la qualité du service. Et donc tout ça doit être fait à un niveau qui soit le juste niveau. Parce que, encore une fois, je le répète, il faut trouver le juste niveau dans un moment de crise.
Il y a un dernier élément qu'on n'a pas encore évoqué, il nous reste simplement 3 minutes, qui fait partie du rapport de l'IGF, dont Emmanuel Macron a dit que ça n'apparaîtrait pas dans le projet de loi, mais il faut quand même en dire un mot, ce serait ce projet d'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral. Pourquoi est-ce que vous y êtes opposé, Philippe Gartner?
Alors je pense que ça, c'est vraiment l'élément majeur. Alors que c'est souvent peut-être ce qui semble le moins visible de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un investisseur qui rentre dans le capital de quelqu'un qui a besoin, dans son libre choix d'arbitre, en tant que médecin, alors je vais vous donner un exemple très précis.
Là, ce seraient des investisseurs qui, investiraient dans un cabinet médical sans être médecin.
Alors, imagine, personne n'obligerait le cabinet médical à faire appel à des investisseurs.
Comme ça que ça va se passer.
Dire pourquoi vous êtes contre.
Alors, je vais donner juste un exemple. Imaginez, en restant dans le domaine de la santé, puisque vous l'avez évoqué, imaginons un secteur localisé avec un investisseur qui prend 49% de la maison médicale ou de l'ensemble des médecins, 49% de la pharmacie d'officine, 49% du laboratoire d'analyse, 49% du cabinet de radiologie. J'ai dit à monsieur le ministre que là, on est capable de faire de la croissance. Mais je ne suis pas sûr que ce type de croissance qui est recouverte par la sécurité sociale, puisse être supportable. Il faut être très vigilant à l'indépendance. Et aujourd'hui, de justifier des capitaux extérieurs pour permettre aux professions de se développer, je crois qu'on n'en a pas besoin, parce que le retour sur investissement qui est attendu est supérieur par l'investisseur que ce qui est nécessaire quand on va dans un emprunt bancaire, par exemple.
Dans tout marché, il y a une supervision, et dans toute supervision, un des premiers éléments, c'est d'éviter le conflit d'intérêts. Donc j'imagine que ce genre de... C'est pareil pour les investisseurs en bourse, etc. Donc j'imagine que ce genre de cas... Enfin, en tout cas, c'est son rôle, doit être prévu par la loi. J'ajoute que si les gens ouvrent leur capital et ont besoin d'argent, rien ne les obligerait à le faire. Donc c'est parfaitement leur libre choix que d'ouvrir leur capital ou non. Donc c'est pas une loi qui obligerait les investisseurs à venir.
Xavier Timbaud, il y a un risque de financiarisation des professions réglementées.
Enfin, encore une fois, je vais prendre l'exemple du secteur médical, parce que là, dans ce cas-là, il y a le domaine des cliniques, par exemple, est entièrement ouvert à des capitaux. Il y a des schémas de statut qui permettent de garantir des éléments déontologiques face à un investisseur externe. La seule solution n'est pas nécessairement d'être soi-même propriétaire de son capital. Et on peut imaginer que ça pourrait conduire à, une pression d'organisation sur le secteur, une rationalisation de l'organisation.
Une pression comme on peut en trouver, par exemple, dans des entreprises plus classiques.
Oui, parce que vous aurez des spécialistes de l'organisation qui prendront les rênes des entreprises. Mais si on a une régulation qui est forte de l'autre côté, c'est encore une fois le cas dans le secteur médical, et des règles de déontologie qui s'appliquent, il n'y a pas de raison de fermer l'entrée du capital, c'est une garantie qui peut être aujourd'hui obsolète.
Bon, Gaspard Koenig, vous n'aurez pas le temps de répondre, mais on pourra lire vos réflexions prochainement dans un des nombreux titres de presse auxquels vous collaborez plus ou moins régulièrement. Il y a l'Opinion, par exemple, le Figaro aussi, me semble-t-il, et puis il y a votre... et les Échos. Voilà. Merci en tout cas, Gaspard Koenig. Merci à vous, Philippe Gartner et Xavier Timbaud, d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez poursuivre, comme chaque jour, sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Demain, émission plus strictement politique. La droite irait-elle mieux ou plus mal sans François Hollande ?